22h en temps universel, minuit à Paris.
24 heures en France sur RFI.
Et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité française dans l'Hexagone et ailleurs sur la planète.
Raphaël Rennes.
Emmanuel Macron met en garde contre la mort de l'Europe. Le président français prononçait son second discours sur l'Union européenne après celui de 2017. Un discours aux accents dramatiques sur lequel nous reviendrons dès le début de ce journal. Journée noire dans les aéroports avec ce préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens. Des négociations ont permis d'éviter la grève, mais les délais étaient trop courts pour reprogrammer les vols. Et puis la disparition de Laurent Cantet, cinéaste français qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour son film « Entre les murs ». Il est décédé ce jeudi à l'âge de 63 ans. Ici à Paris, on est déjà vendredi 26 avril. C'est 24 heures en France. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Radio France Internationale.
Emmanuel Macron a donc de nouveau prononcé un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, comme il l'avait fait en 2017 après sa première élection. Un discours cette fois de près de 2 heures, dans lequel il a fait le bilan des 7 années écoulées, mais surtout, le président a voulu dramatiser l'enjeu des élections européennes du 9 juin. Valérie Gasse était sur place pour RFI.
C'est un discours fleuve qu'Emmanuel Macron a prononcé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Un discours d'abord en forme de diagnostic et pour le chef de l'État, l'Europe est en danger.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
À 45 jours des élections européennes, Emmanuel Macron a donné sa recette pour bâtir une Europe puissance. Il a prôné un changement de paradigme en matière de défense et de sécurité. Il a plaidé pour la maîtrise des frontières, un pacte de prospérité pour l'investissement dans l'innovation et aussi la défense des valeurs de l'Europe. Et même si l'Élysée réfute que ce discours est un discours de campagne, il s'en est pris à ses adversaires politiques.
Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Ils nous ont tous habitués à un discours qui est le « oui mais », qui est dire « j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple ». Ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre. Propose juste de ne plus avoir de règles de copropriété.
Une manière de planter le décor entre son camp, celui de la responsabilité qui croit en l'Europe et le camp des critiques qui n'y croient pas. En France, le Rassemblement national qu'il n'a pas cité. Le choix du 9 juin pour Emmanuel Macron, c'est aussi ça.
Et parmi les nombreuses réactions à ce discours, celle de Manon Aubry qui ironise sur l'Europe puissance évoquée par le président français alors qu'il a organisé l'Europe de l'impuissance, déclare la tête de liste de la France insoumise aux européennes. Marine Le Pen, de son côté, dénonce un discours entre incantation et gesticulation. Et la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est largement en tête dans tous les sondages pour les européennes, prévient « si sa liste distance celle du camp présidentiel le 9 juin prochain, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections ». Le RN avait convié la presse ce jeudi pour présenter son programme. Mais vous avez plutôt assisté, Pierrick Bonneau, à un nouvel exercice de communication de Jordan Bardella.
20 minutes de discours montre en main au siège parisien du Rassemblement national. Derrière son pupitre, Jordan Bardella recycle quelques pics contre le chef de l'État, qualifié notamment de porte-parole de sa tête de liste, Valérie Ayer. Le patron du RN déroule les grands axes de son projet sans faire la moindre annonce et quitte la salle au moment de répondre aux questions des journalistes. Son directeur de campagne se retrouve seul face à la presse et ose une comparaison avec Emmanuel Macron, qui lui non plus n'avait pas pris de questions quelques heures plus tôt à la Sorbonne. Mais cet épisode illustre les rapports de plus en plus compliqués entre la tête de liste du RN et les médias. Jordan Bardella choisit scrupuleusement les plateaux où il apparaît, sèche des débats où toutes les autres têtes de liste sont pourtant présentes, notamment celui organisé par RFI au début du mois, et le jeune leader nationaliste ne parle désormais plus aux journalistes hors micro, comme c'est la tradition en campagne électorale. Le favori refuserait-il de prendre des risques, alors qu'il n'a jamais été aussi haut dans les sondages? Une députée qui le connaît très bien sourit. Jordan Bardella a beaucoup de qualités, mais le risque, c'est pas son truc.
Pierrick Bonneau. Journée noire dans les aéroports avec ce préavis de grève qui avait été déposé par les contrôleurs aériens. Des négociations de dernière minute ont réussi à éviter la grève, mais les délais étaient trop courts pour reprogrammer les vols. La plupart des compagnies avaient informé leurs passagers à l'avance, mais certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir dans le hall d'embarquement que leur vol n'aurait pas lieu. Valentin Hugues était à Orly, au sud de Paris, où 3 vols sur 4 étaient annulés.
Dans le hall d'embarquement, tout paraît normal. Sur les écrans, les vols sont tous annoncés à l'heure. Seulement Kuka n'a pas trouvé le sien.
Ça n'a pas été affiché. Je suis partie demander ensuite aux agents. Ils ont dit que ça a été annulé.
Parce que les nombreux vols annulés ont tout simplement été retirés des écrans. Alors c'est l'incompréhension pour Artemisa. Vous deviez aller où ?
À Lisbonne, juste le week-end. C'est pour ça que si c'est annulé, c'est mort.
Bonjour, excusez-moi, je dois partir avec le vol de 16h45.
Vous donnez le remboursement du billet ?
Non, mais ça, c'est pas normal. Moi, je dois partir aujourd'hui parce que moi, j'ai quitté 3 jours.
Impossible donc de prendre l'avion aujourd'hui.
Bah, je vais essayer de les appeler.
Est-ce qu'on va y aller aujourd'hui ?
Le calme de l'aéroport moins fréquenté aujourd'hui laisse place à l'énervement au guichet d'accueil.
Je veux prendre cet avion pour mon travail.
Mais il n'y a pas d'avion.
Ces deux Italiens ont reçu un mail de leur compagnie ce matin, leur proposant un autre vol pour demain, mais rien ne leur indiquait clairement que leur vol était annulé.
Pour moi, c'est très, très important de rentrer en Italie pour mon travail. Cette situation est incroyable.
Ce jeudi, dans les aéroports français, la moitié des vols ont été annulés.
Reportage de Valentin Hugues. C'est une affaire qui a passionné les Français ces derniers jours. L'affaire Kenji Girac, ce chanteur populaire grièvement blessé par balle il y a 4 jours, aurait voulu simuler un suicide pour retenir sa femme qui menaçait de le quitter. Une simulation qui aurait mal tourné alors qu'il était fortement alcoolisé. Il n'y aura donc pas de suite judiciaire. L'hypothèse d'un tir par une tierce personne a été formellement écartée par les enquêteurs. Écoutez Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Un tir qui aurait été réalisé par un tiers est écarté. Qu'il s'agisse d'une personne extérieure au camp, d'une agression, ou qu'il s'agisse d'une altercation avec un membre de sa famille, et plus précisément avec sa compagne. Aucun élément de l'enquête ne va en ce sens. Nous avons donc un tir qui a été provoqué volontairement, au final, par Kenji Girac. La véracité des explications qui sont les siennes concernant la présence de balles dans le chargeur et le fait qu'il ignorait cette présence de balles, cette version lui appartient. L'enquête judiciaire, à mes yeux, n'a pas vocation à aller plus loin sur cette question du passage à l'acte, de la motivation du passage à l'acte, puisque, au final, ni un suicide simulé qui tourne mal accidentellement, ni une véritable tentative de suicide ne correspondent à une infraction pénale. La procédure judiciaire pourrait donc avoir un terme très prochainement.
Le procureur de Mont-de-Marsan tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Il était en préparation d'un nouveau film, mais a été rattrapé par la maladie. Le réalisateur Laurent Cantet est mort ce jeudi, âgé de 63 ans. Il avait marqué le cinéma français en remportant la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'était en 2008 pour son film « Entre les murs ». Sophie Torlotin.
Laurent Cantet voulait représenter la complexité du monde au cinéma. Dans son premier long métrage, « Ressources humaines », en 1999, il filme l'affrontement entre un père ouvrier et son fils promu DRH lors de l'application des 35 heures dans une usine. Dans l'emploi du temps, il s'inspire de l'affaire Jean-Claude Roman pour montrer un homme qui assassine sa famille lorsque son imposture, il disait travailler à l'ONU, risque d'être dévoilée. Pour Vers le Sud, il raconte les vacances de femmes mûres en Haïti qui s'adonne au tourisme sexuel. Et c'est son 4e long-métrage, Entre les murs, brouillant les pistes entre documentaire et fiction, qui lui assure la consécration internationale. L'écrivain François Bégodeau adapte et interprète le rôle principal de son roman, le quotidien d'un professeur de français dans un collège difficile à Paris.
Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je dirais fallu que je sois fusse.
Entre les murs, qui expose les problématiques de pouvoir et d'inégalité des chances, décroche la prestigieuse Palme d'Or à Cannes en 2008. Toujours soucieux de dénoncer les rapports de force entre les sexes, comme ensuite dans Foxfire, ou entre les classes sociales dans L'Atelier, Laurent Cantet travaillait à un nouveau film intitulé L'Apprenti, qui aurait dû sortir en 2025.
Et le Festival de Cannes salue ce soir la mémoire d'un humaniste acharné qui cherchait la lumière malgré la violence sociale, qui trouvait l'espoir malgré la dureté de la réalité. Le Moulin Rouge a perdu ses ailes. Le célèbre cabaret parisien de la Butte Montmartre est ouvert normalement ce soir, mais ceux qui espéraient faire une énième photo Instagram du moulin illuminé en ont été pour leurs frais. La nuit dernière, les ailes du moulin sont tombées, comme les lettres M, O et U de la façade. Aucun acte malveillant, aucun blessé, pas de risque d'effondrement, assure la direction, qui est toutefois incapable d'expliquer les raisons de cette amputation malheureuse d'un des lieux les plus iconiques de la capitale française. C'est l'événement de l'année, ce soir, pour les artistes des musiques dites populaires, rap, R&B et de façon générale toute la mouvance hip-hop. Les meilleurs musiciens et chanteurs de 2023 sont récompensés au cours de la cérémonie des Flammes au Théâtre du Châtelet à Paris. Deuxième édition, vécue par ces artistes comme une reconnaissance, comme le disait en préambule l'une des maîtresses de cérémonie, Néwin.
Les Flammes, c'est ça en fait. C'est plus qu'un rassemblement de talents sous le même toit. C'est un message pour montrer que les musiques dites populaires sont aussi importantes. C'est un art majeur, comme le cinéma et comme le théâtre.
Et c'est celle que l'on surnomme la reine de France, Aya Nakamura, artiste francophone la plus écoutée dans le monde, qui a ouvert la cérémonie avec un medley de ses tubes. Bonsoir Olivier Roger.
Oui, bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Aya Nakamura a littéralement triomphé ce soir.
Oui, c'était la soirée Aya Nakamura. Elle a remporté la flamme de l'album Nouvelle Pop de l'année, celle du rayonnement international et celle de l'artiste féminine de l'année. La Queen incarne le show, elle fait le show. Au-delà des polémiques avec l'extrême droite française, le monde du rap, du R&B et des musiques populaires font corps derrière celle qui a brisé tous les plafonds de verre. Hormis Aya Nakamura, on a eu de très belles récompenses. Oué Renoir, révélation l'an dernier, a reçu la flamme du meilleur album rap de l'année. Gazo, déjà récompensé aux victoires de la musique, est l'artiste masculin de l'année pour les Flammes. Meilleur concert pour le Marseillais SCH. Meilleur featuring, autrement dit collaboration entre l'anglais Dave et le français Tiakola. Et puis, soulignons-le, les Flammes rendent hommage à la musique inspirée par l'Afrique et c'est Djangeli, le franco-congolais, qui a reçu le trophée pour son titre Petit Génie. Autre récompense décernée ce soir, les deux révélations. Révélation féminine pour Merveille, elle a à peine 16 ans et elle est bluffante de talent, et révélation masculine pour le rappeur Favé.
Olivier Roger, la cérémonie est en train de se terminer au Châtelet. Nous, on se quitte avec l'une des 15 performances en direct de ce soir, celle de Josman.
Ma soeur contre un petit pied, j'avais le sol. À deux doigts de briller, j'avais le seum. Maintenant, je fais briller la clé de sol. L'argent ou le plomb, telle est la question. Je viens du fond, je fais du cash, j'apprends la compta, la gestion. Plus le risque est grand, plus belle est la pression. Je rappe pour la survie, sourcil front, c'est un son comme une agression. Je me la veux pas. C'est pas de l'arrogance, c'est juste du self-estime. Parce que le monde me sous-estime, et j'aime pas qu'on me sous-estime. Je superpose les notes et les liasses, je fais des additions. Puis je dépose l'alias, je paye la note, je paye l'addition. J'ai toujours la même
addition. Josman ce soir sur la scène du Châtelet. C'est la fin de cette première partie. Tout de suite, l'invité des RFI.
24 heures en France. Raphaël Rennes.
Et nous allons revenir sur le discours prononcé par Emmanuel Macron ce jeudi à l'université de la Sorbonne, discours sur la vision du président de l'Union européenne. Pour en parler, Anne Cantner recevait tout à l'heure Sébastien Maillard, il est conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors et chercheur associé au think tank Chatham House.
C'était un discours, si vous voulez, visionnaire sur sa manière d'appréhender la construction européenne, un Sorbonne 2 qu'il a prononcé pendant plus de 2 heures, on l'a vu. Très combatif, plutôt à, je dirais, à vraiment distinguer ce qui fait la raison d'être de l'Europe dans un monde en pleine bascule. Il a eu cette phrase assez, qui est souvenue un peu comme un fil conducteur de son discours, qui est « l'Europe est mortelle ». Et donc c'était une sorte de « wake-up call », comme on dirait en anglais, un cri d'alarme pour que les Européens se ressaisissent et défendre l'Europe comme puissance face non seulement à la Russie et là, pour défendre l'Ukraine, mais aussi face à la Chine et aux États-Unis, qui ont été très souvent cités en référence aux menaces que ces puissances représentent pour l'Europe.
Il a tenu des propos qui étaient un peu à mi-chemin entre le bilan et les perspectives politiques que vous évoquiez à l'instant. Il a dit quand même qu'un certain nombre de choses n'avaient pas été réussies en Europe. Lui est au pouvoir depuis 7 ans, il a occupé la présidence tournante de l'Union européenne. Est-ce que c'est une forme de mea culpa aussi, selon vous ?
C'est plutôt, on a réussi des choses, il faut aller beaucoup plus loin. Je dirais c'est un discours que j'appellerais le Sorbonne Plus. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait un bilan, plutôt un plaidoyer assez pro-domo de ce qu'il a réussi. Et ça a été la première partie du discours, c'était une façon de se réapproprier, par exemple, la réussite de la réaction européenne pendant la crise du Covid et la distribution des vaccins en Europe. Je pense aussi à la réaction unanime face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions. Donc il a plutôt distribué quelques bons points dans ce qui a été réussi, mais tout de suite pour dire le monde est en train de basculer. Cette phrase, nous sommes décalés aller par rapport à la réorganisation du monde. Plus personne ne respecte les règles. Et donc, là-dessus, il veut l'inciter à aller en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc, c'est en fait accélérer ce qui a été amorcé il y a 7 ans.
Et sur ce point, puisque vous parliez de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a parlé par exemple de défense européenne crédible. Il a même prôné la dissuasion nucléaire pour l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire une défense européenne crédible ?
C'est effectivement dans ce passage-là, c'est en toute la phrase qui est revenue le plus souvent, ça veut dire définir en fait qu'est-ce qu'on entend par un pilier européen de l'OTAN. On sent bien aussi que dans son discours, il y a plusieurs fois, il s'est référé aux États-Unis comme un allié, mais un allié incertain, un allié qui est préoccupé plutôt par la Chine ou par d'autres, et par lui-même d'abord, que par nous. Et donc, ça veut dire réinvestir dans l'armement de défense, mais ça veut dire avoir une culture stratégique commune. Des choses qui ont déjà été amorcées, encore une fois, ces dernières années, et encore plus là, ces derniers temps, avec la réponse à la guerre en Ukraine. Mais ça veut dire effectivement avoir une force de réaction rapide opérationnelle et pas forcément aller à 27 là-dessus. Je pense que cette défense crédible, ça vise quelques pays clés qui peuvent l'avoir, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, et je pense que ça peut même se construire au-delà de l'UE avec le Royaume-Uni qui est aussi l'autre puissance nucléaire du continent.
Le chercheur Sébastien Maillard, invité d'Anne Cantner tout à l'heure dans La France à midi.
Reportage France.
L'Union européenne lance une nouvelle enquête commerciale contre la Chine. Après des soupçons d'aide aux voitures électriques ou aux panneaux solaires, Bruxelles vise cette fois les fournisseurs chinois de dispositifs médicaux. Mais face à ces accusations, Pékin ne se laisse pas faire et réplique. Depuis le 5 janvier, une enquête vise les eaux-de-vie européennes. La Chine soupçonne certains pays de l'Union de subventionner ces produits pour les vendre ensuite plus cher sur le marché chinois. Premier concerné, le cognac français. Aujourd'hui, une bouteille sur quatre est exportée en Chine, c'est 25% du marché du cognac. Et c'est toute une filière qui s'inquiète de possibles mesures de rétorsion. C'est le reportage France d'RFI, il est signé Nicolas Feldman.
C'est ici qu'on met le cognac avant d'être mis en bouteille.
Sur la ligne de production, des salariés remplissent des bouteilles de cognac avant de les étiqueter. Chaque année, la maison Bache-Gabrielsen envoie entre 50 à 100 000 de ces bouteilles vers la Chine. Mais depuis l'ouverture d'une enquête par Pékin le 5 janvier, le patron de la PME passe plus de temps à son bureau.
Ici, par exemple, vous voyez sur le questionnaire un onglet sur les achats, un onglet sur notre capacité de production.
Dans ces questionnaires, Hervé Bache-Gabrielsen doit prouver aux autorités chinoises que son cognac n'est pas vendu plus cher sur le marché chinois.
Cette enquête anti-dumping, elle s'est matérialisée par des questionnaires très détaillés où il a fallu donner un grand nombre d'informations très précises sur notre savoir-faire, sur notre production. Ça a été d'abord donné en chinois, mais ensuite traduit, heureusement. C'est surtout du temps et de l'argent, car ça mobilise des équipes. Pour certaines maisons, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, et il y a comme une épée de Damoclès. Si vous prenez des droits de douane supplémentaires en cas d'application de ces taxes anti-dumping, eh bien, ça sera autant de difficultés complémentaires pour vendre nos produits.
Une menace qui plane aussi sur les viticulteurs. Sur son exploitation, Anthony Brun produit du raisin qui sera ensuite transformé en vin puis distillé pour faire du cognac, en partie à destination du marché chinois.
C'est un marché qui est très porteur puisque principalement dédié sur des eaux de vie plutôt vieilles. On a défini des perspectives de croissance depuis déjà quelques années avec les négociants. Sur mon exploitation de 30 hectares, aujourd'hui j'ai 15 hectares de vignes que j'ai renouvelées. Donc tous ces investissements-là qui ont été faits pour répondre aux volontés du consommateur, les Chinois en l'occurrence, si demain les consommateurs ne peuvent pas acheter parce que le prix a été biaisé par une taxe, on aura fait des investissements pas rentabilisables.
Florent Morillon est le président du Bureau national interprofessionnel du cognac. La filière en France rapporte chaque année à l'économie plus de 6 milliards d'euros.
Vous savez, le cognac représente aujourd'hui plus de 70 000 emplois directs et indirects en France. Donc on touche ce tissu économique, on joue vraiment la plus grande transparence possible parce qu'on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Si malheureusement demain on n'était pas écouté ou que l'analyse ne soit pas objective, on fera valoir bien sûr notre situation devant l'OMC. Mais on sait que l'OMC, c'est des années et des années.
En attendant, la filière s'active en coulisses. Après une rencontre le mois dernier avec le ministre chinois du Commerce, les représentants misent désormais sur la visite de Xi Jinping à Paris. Il est attendu début mai. Le gouvernement français assure que le sort du cognac sera au cœur des discussions.
Un reportage de Nicolas Feldman. Il est minuit 19 à Cognac et à Paris, 19h19 à Kourou.
Le journal de l'Outre-mer.
et dans tous les sens du terme, Ariane 6 est sur les rails au centre spatial guyanais de Kourou. Le corps central de la fusée a été tracté ce mercredi par un chariot télécommandé et placé sur son pas de tir. C'est le premier titre du journal La Première. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Si tout se déroule comme prévu, et si le temps le permet, comme on dirait à Saint-Pierre-et-Miquelon, le dernier modèle en date de la fusée européenne devrait s'élancer vers le ciel à la fin du mois de juillet. Franck Huyban est le directeur des programmes d'Ariane Group. Il est au micro de Jean-Gilles Assard.
C'est le début de la campagne de lancement. Elle va durer 2 ou 3 mois. Nous recevrons les passagers du premier vol à Kourou à partir de la mi-mai. Puis nous allons les préparer sous la coiffe du lanceur pour les apporter le moment venu. Pendant ce temps-là, en Europe continentale, les travaux continuent sur la qualification du lanceur, donc une revue d'experts qui doit se prononcer sur notre aptitude à voler, qui va vérifier que tous les ingénieurs ont bien travaillé, traité toutes les anomalies, apporté toutes les démonstrations nécessaires. Et c'est la convergence de tous ces efforts, la revue de qualification, le montage du lanceur sur son pas de tir, toutes les opérations qui va nous permettre d'aller au premier vol.
Troisième et dernier jour de visite à l'île de la Réunion ce jeudi pour la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Un séjour qui n'a pas fait l'unanimité, à supposer d'ailleurs que cela soit possible, avec d'un côté celles et ceux qui ont pu rencontrer Aurore Berger et de l'autre celles et ceux qui auraient bien aimé lui parler. À l'image, par exemple, des membres de l'association Femmes Solidaires, qui avaient pourtant sollicité un rendez-vous. Pierrette Mira est la directrice de cette association qui œuvre auprès des victimes de violences conjugales. Elle a confié sa relative déception au micro de Philippe Dornier.
Depuis le 1er janvier, on a déjà 60 femmes qu'on accompagne avec un suivi et on a des appels tous les jours et finalement on est rendu à 2 à 3 personnes par week-end puisque ben, finalement il y a un manque de moyens au niveau des hébergements sur l'île et que finalement ben, on passe son temps à appeler le 115 et eux-mêmes qui sont en difficulté parce que ben, il n'y a pas de solution. Je crois que les moyens ils sont pas là où il faut parce que finalement on veut faire croire qu'on peut accompagner, suivre financièrement, psychologiquement, alors qu'on connaît la réalité de notre terrain. Plus de 6 mois pour avoir un suivi psychologique, pas de toit. Donc pour l'instant, les femmes, elles, voilà. quand elles appellent, on ne les aide pas vraiment pour partir tout de suite. On essaye, avec le petit moyen que nous n'ayons, de voir avec les privés. Peut-être que je pense qu'à un moment donné, nous serons vraiment ramenés à être autour d'une table avec les bailleurs sociaux, les privés, pour pouvoir trouver des solutions ben, pour l'urgence. Et après, peut-être prévoir d'autres dispositifs qui pourraient permettre à ces femmes-là de se réintégrer, comme disait la ministre.
Direction l'océan Pacifique et la Polynésie pour terminer avec le Tahiti Nui qui appareille ce jeudi pour ravitailler les Tuamotu Nord-Est et 12 autres petites îles. Le Tahiti Nui, c'est en quelque sorte un navire public, ce qu'on appelle là-bas la flottille administrative, des bateaux qui prennent le relais des armateurs privés en cas de difficulté. Reportage au port de Papeete, Leïna Tetuanui.
Il est 7h du matin, Elias Salem est déjà sur le quai de Motuta. À 74 ans, le gérant de la société de navigation des Tuamotu inspecte l'avancée de réparation du moteur du navire Maristela 4.
Là, il est en train de terminer le moteur. Comme on a installé un moteur neuf, ça fait un an qu'il est en réparation. Dans 2 semaines, ce sera tout fini et sera opérationnel.
En attendant la remise en service des navires Maristela 4 et 3, la flottille administrative assure la rotation au Tuamotu Nord-Est. Les familles de Tahiti se sont empressées de déposer leurs marchandises avant le grand départ du Tahiti Nui 1.
Ça fait un moment que nous, dans les îles, on n'a pas eu de bateau. Et ça fait long quand même pour ceux des îles. On reçoit tout ce qui est congelé d'hiver. Ils sont très contents. Et là, on a eu de la chance que Tahiti Nui puisse nous desservir.
Depuis le début de l'année, c'est le tout premier déplacement du navire Tahiti Nui et ce sera son premier voyage vers les Tuamotu Nord-Est. Une rotation qui sera également une découverte pour le chef de la flottille administrative, Vatia Sidjar, en poste depuis 7 mois.
On a à peu près 300 tonnes de fret divers, hein, du fret normal, sec, on a du congelé, des réfrigérés et beaucoup de carburant.
Le navire Tahiti Nui 1 va appareiller ce matin pour ravitailler les Tuamotu Nord-Est. Il sera de retour aux Fénois le 5 mai prochain.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci. Une bonne soirée à vous également, Benoît.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Caroline Paré, vous évoquez les troubles de la vision en compagnie du docteur Christophe Orso.
Docteur Christophe Orso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologue, neuro-ophtalmologue responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Est-ce qu'il est possible de prévenir certains troubles de la vision ?
Alors, il est possible de prévenir chez l'enfant la myopie en portant des lunettes très tôt, parce que la myopie est myopigène, et puis en ne restant pas trop sur les smartphones, parce qu'on sait que c'est un des facteurs qui aggrave la myopie actuellement. Et l'utiliser de façon normale pour chercher quelque chose, c'est très bien. Y passer des heures, probablement, est un des facteurs d'aggravation de la myopie. Pour les autres troubles, il n'y a pas de moyen de les prévenir, on peut juste les corriger. Encore faut-il consulter régulièrement dès qu'on commence à être gêné, en particulier vers 40 ans pour la presbytie, qui est tout à fait normale, qui est physiologique, c'est du vieillissement normal.
Et si on voit flou, est-ce qu'il y a un risque à ne pas porter de lunettes, à ne pas corriger ce défaut ?
On ne risque pas chez l'adulte d'aggraver sa vision. Chez l'enfant, c'est un petit peu différent parce que l'enfant va développer sa vision. Donc si on ne le corrige pas, il développe mal sa vision. Chez l'adulte, il n'y a pas de danger. On a simplement mal à la tête et puis on risque d'avoir des accidents, accidents domestiques, accidents quand on conduit, accidents au travail, mais c'est tout.
Merci beaucoup, docteur Orso. Dans Priorité Santé aujourd'hui, on parle de l'objectif d'éradication du paludisme à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette infection parasitaire. Comment s'organise aujourd'hui lutte et prévention du palu ? Où en sont les campagnes de vaccination en Afrique ? Pour nous joindre, notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. Et vous retrouvez Priorité Santé à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et le rendez-vous et prix Caroline. 24 heures en France, c'est fini pour ce soir, mais on revient demain à partir de 22h en temps universel, comme chaque soir. Valentin Vaner était à la réalisation de cette demi-heure d'information. Benoît de Solmignac à sa rédaction en chef, assisté ce soir de Stéphane Duguay. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la dernière édition d'Afrique Soir. Et puis c'est Jérôme Bastion qui vous accompagnera pour le reste de la nuit. Mais avant ça, et comme chaque jour, on fait un point sur la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Aux États-Unis, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones plonge de 375 points et clôture à 38 086. L'indice du Nasdaq, lui, décroche de 101 points et revient à 15 612. Le marché obligataire plonge également. Le rendement du 10 bond à 10 ans en remonte à 4,70. C'est la réaction négative à la première estimation de la croissance aux États-Unis pour le premier trimestre, chiffre publié aujourd'hui. On attendait 2,5% en rythme annuel, or le département du commerce annonce seulement 1,6%. Pire, la mesure de l'inflation sur la période de janvier à mars est moins bonne que prévu, elle est de 3,1%, alors que l'inflation, mesurée ainsi, était tombée à 1,9% durant le trimestre précédent. En outre, si l'on ne tient pas compte des prix de l'énergie, des prix des produits alimentaires, l'indice des prix des dépenses personnelles grimpe au cours du premier trimestre de 3,7%, c'est la plus forte hausse depuis un an, on s'éloigne clairement de l'objectif de 2%, de la Réserve fédérale. Voilà une raison de plus pour la Banque centrale américaine d'attendre au moins jusqu'au mois de septembre pour éventuellement abaisser son taux directeur. Dans ce contexte décevant, on note la chute de près de 11% du cours de Meta Platforms. La maison mère de Facebook annonce un chiffre d'affaires moins élevé que prévu pour le premier trimestre et se montre très prudente pour les prochains mois en raison notamment d'énormes investissements dans l'intelligence artificielle. Le pétrole américain gagne plus d'1% et se rapproche de $84 le baril. L'euro se hisse à $1,0727. L'indice Dow Jones plonge d'1%, le Nasdaq chute de 0,6%.
Air Phono Palmier Rouge et RFI Talent présente Edadias en concert. À l'occasion de la Tamasson des parties, découvrez l'artiste franco-colombienne sur la scène du Tamanoir à Gennevilliers près de Paris le 28 avril à 16h. Plus d'infos sur cafeletamanoir.com.